Boker Tov, Shavua Tov, les Koulam, Boker Tov, Anne. Voilà, on est revenu pour notre petite étude, notre petite visite, en fait, au Beit HaMikdash. Voilà, la semaine dernière, on avait commencé cette petite session, parce que c'est très important quand même de savoir un petit peu de quoi on parle quand on parle du Beit HaMikdash. Je rappelle simplement, comme ça, pour lancer le cours d'aujourd'hui, que plus des deux tiers des mitzvot de la Torah dépendent du Beit HaMikdash. Donc, si vous voulez, l'écrasante majorité de la vie juive idéale dépend du Beit HaMikdash. Donc, il est évident que bah, c'est la moindre des choses de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, voilà, aujourd'hui, on va aller se balader un petit peu à l'intérieur donc, du Beit HaMikdash. La semaine dernière, on avait expliqué les différences qu'il y avait entre le Beit HaMikdash HaRishon, le Beit HaMikdash HaSheni. On avait essayé d'expliquer un petit peu tous les moments où cet endroit, ce mont du temple, eh bien, avait eu son importance dans le judaïsme. On va maintenant rentrer dans le Beit HaMikdash. Alors, on a expliqué la semaine dernière que le premier Beit HaMikdash, on ne connaît pas grand-chose sur lui. On connaît ses dimensions, on connaît donc, on avait parlé des deux tours, Yachin et Boaz, des péotes. On avait parlé de pas mal de choses, mais on connaît peu du Beit HaMikdash HaRishon, par opposition à ce qu'on connaît du Beit HaMikdash HaSheni. Et alors là, le Beit HaSheni, c'est toute une autre histoire, puisque le Beit HaSheni, nous avons eu un homme qui était non seulement contemporain du Beit HaMikdash, mais en plus de ça, qui était Cohen, et qui a bossé au Beit HaMikdash, qui a vu le Beit HaMikdash, qui le connaissait très bien, et qui nous a pu en décrire tous les recoins. Si bien qu'ils étaient en parfaite adéquation avec la Mishnah dans Maseret Midot, ce qui nous a permis eh bien, de reconstituer le Beit HaSheni. Le voilà, le Beit HaMikdash HaSheni, toujours ma petite maquette de la semaine dernière. On va beaucoup utiliser la maquette aujourd'hui. Et donc, je parle évidemment du Cohen qui s'appelait Yosef Ben Matityahu, plus connu sous son nom d'auteur Flavius Joseph. Alors, maintenant, sans plus attendre, rentrons au Beit HaMikdash. Alors, on va réutiliser la maquette dans deux secondes. Mais avant de rentrer dans le Beit HaMikdash, on se rappelle, petit rappel. Hop là. Au Beit HaMikdash, vous vous rappelez, quand on parle du deuxième temple, du Beit HaSheni, eh bien, nous pouvons avoir cette image du Machon HaMikdash. Voilà, vous pouvez voir l'image ici. Je vais essayer de tourner un tout petit peu la caméra histoire que... Voilà. Donc, vous avez cette image ici du Beit HaMikdash HaSheni. Et on avait expliqué donc la semaine dernière qu'en fait, toute cette partie-là, toute cette esplanade, on voit de l'autre côté également, eh bien, c'est le mont du temple. C'est Har HaBait. Il y a une Kdusha particulière au Har HaBait. Bien évidemment, on parlera de la Kedusha certainement dans le prochain cours, mais comprenez bien que dans cette zone-là, tout le monde y vient. Quand je dis tout le monde, c'est juif comme non-juif. Les escaliers qui permettent d'arriver au Mitram, on va dire à la zone du Beit HaMikdash, sont par là. Ok ? L'entrée du Beit HaMikdash se fait par le côté, je vais vous les montrer ici même, sur une autre image. Voilà. Vous avez donc ici le Beit HaMikdash vu de derrière. Et on peut voir ici, ok, qu'est-ce qu'on peut y voir ici, de ce côté-là? Eh bien, c'est, alors, on va voir si vous avez bien compris de quoi il s'agit. Là, nous sommes dans le Kotel Ma'aravi. Oui, c'est le mur occidental. Là où j'ai mon doigt, c'est le Kotel que nous connaissons aujourd'hui. C'est ça, le Kotel que nous connaissons. Quand vous allez vous balader dans les minarotes à Kotel, dans les tunnels du Kotel, eh bien, en fait, vous allez vous balader tout le long de ce mur occidental. Donc, si ici, il s'agit du mur occidental, eh bien, ici, c'est le mur sud, là-bas, le mur oriental, et ici, le mur nord. Dans ce mur sud, eh bien, vous pouvez voir ici et là deux entrées. C'était les portes qu'on appelait Sha'are Khulda, les portes de Khulda. Alors, deux explications pourquoi Khulda. Soit parce que Khulda, ça veut dire un rat, en hébreu. Donc, soit parce qu'en fait, quand tu rentrais dans ces portes-là, tu n'arrivais pas à l'endroit. Ce n'était pas une porte simplement où tu rentres dedans. Tu rentrais, en fait, tu arrivais dans un système de galerie qui petit à petit te faisait monter vers la lumière et te faisait arriver dans cette esplanade extraordinaire. Et donc, bah, tu avais l'impression d'être comme un rat qui monte la tête à la lumière. Ou alors, et c'est un petit peu plus positif, tout simplement parce que ces portes-là font face à l'endroit où est enterrée Hulda Anevia, la prophétesse Hulda de l'époque du premier temple de Yoshiyahu Melech Yehuda. Alors, pourquoi ces interdictions de monter, si des zones sont permises, c'est très grave, ces interdictions. Alors, j'ai dit, pour le moment, on ne parle pas de la Kdusha aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Ça, on en parlera très certainement la prochaine fois. Là, pour l'instant, je veux simplement qu'on se base sur la visite de ce qu'il y avait. Après, de comment est-ce qu'on se comporte aujourd'hui, on verra la prochaine fois. D'accord? Bekitsour, donc, voilà comment on rentre au Beit HaMikdash. Mais comme je l'ai dit, quand tu as passé les portes, je remontre l'image, lorsqu'on a passé les portes de Sha'are Hulda, on n'est pas encore dans le Beit HaMikdash. On arrive simplement ici, dans la grande esplanade. Alors je ramène voilà, cette image. On arrive seulement ici. Vous voyez ces petites sorties dans le sol, c'est bien par là que les gens rentrent au Beit HaMikdash. Alors, il y a tout de même une petite chose à développer à ce niveau-là. C'est que lorsqu'on arrive dans ces portes-là, Sha'are Hulda, comme on a dit, eh bien, en fait, il y a deux systèmes de portes. On ne peut pas le voir très bien ici, simplement parce que bah, l'image est quand même assez éloignée, mais il y a deux systèmes de portes, ici et là. En fait, il y a des portes, quand on est face à l'édifice, on est donc face au côté sud, eh bien, vous avez d'un côté trois portes et de l'autre, deux portes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, on ne rentre pas n'importe comment au Beit HaMikdash. D'ailleurs, les escaliers qui menaient à ces portes-là, escaliers d'ailleurs qu'on peut voir aujourd'hui lorsqu'on va visiter les fouilles du centre Davidson, on peut même arpenter ces marches, qui étaient les marches tout simplement qui nous permettaient de monter au Beit HaMikdash, eh bien, on se rendra compte que les marches sont un petit peu bizarres, puisqu'il y a à chaque fois deux petites marches, une grande marche. Deux petites marches, une grande marche. Deux petites marches, une grande marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas courir pour monter au Beit HaMikdash sans te faire casser la figure. L'idée, c'est que lorsqu'on monte au Beit HaMikdash, on est plein de Kdusha, de Yirah, Léat, Léat. Ce n'est pas un truc, on y court. Et donc, on arrive devant les portes. On ne peut pas aller n'importe comment. Allez-y, je rentre par là, on s'en fiche. Non. Il y a un ordre. En fait, c'est très simple. Là, sur la gauche, on a le système des deux portes. Sur la droite, on a trois portes. On peut voir d'ailleurs les vestiges de ces portes aujourd'hui encore, quand on va toujours donc au centre Davidson. Eh bien, sur les deux, dans l'entrée des deux portes, c'est par là qu'on rentre. Par les trois portes, c'est là qu'on ressort. Comme ça, il y a un système de sens et les gens ne se marchent pas dessus. C'est particulièrement important pendant les jours de fête, pendant Sukkot, Pessah, Shavuot, où il y a plein de monde qui arrive. Donc comme ça, on ne s'en mêle pas les pinceaux. Ceci étant, dans la zone des trois portes, dans la porte du milieu, eh bien, il y a quand même une sorte de personne qui va emprunter cette porte du milieu des trois portes, là où les gens sortent. C'est qui? Je viens de dire à Mishnah, c'est la personne qui a vécu un drame, la personne qui est endeuillée. Eh bien, si elle veut venir au Beit HaMikdash, elle utilisera la porte du milieu des trois portes. Pourquoi? Eh bien, pour que toutes les personnes qui sortent et la rencontrent, eh bien, lui disent que la personne, que celui qui a fait résider son nom dans cette maison, t'emmène le réconfort. Et donc, une fois qu'on a pénétré dans l'esplanade, évidemment, comme j'ai dit, on est émerveillé de la grandeur de l'édifice. On parle donc d'un bâtiment énorme. Je rappelle les chiffres, près de 13 ans pour le construire, près de 20 000 ouvriers. Truc de malade, monsieur Hérode. Et donc, bah une fois qu'on a pénétré là-dedans, eh bien, on va pouvoir rentrer au Beit HaMikdash. Mais attention, pas tout de suite. Avant de rentrer au Beit HaMikdash, eh bien, je vous montre ici sur une autre illustration. Avant de rentrer au Beit HaMikdash, Mamash, avant de rentrer, eh bien, il y a des gens qui sont dehors. Alors, je cherche mon illustration, évidemment. Ça aurait été mieux que je me fasse des marque-pages, bien sûr, mais sinon, ça aurait été trop facile. Nounou. Hop là, hop là. Je ne vais pas le retrouver, évidemment, sinon ça ne sera pas drôle. L'homme est chané. Je n'ai pas trouvé l'illustration, je vais la retrouver à un moment donné. Le fait est que lorsqu'on arrive donc au Beth Amigdash, eh bien, comme on l'a dit la semaine dernière, je remontre cette image-là, toujours la même, vous pouvez voir qu'il y a donc ce mur qui entoure le bâtiment du Beth Amigdash, qui servait de pense-bête pour les non-juifs en disant « Jusque-là, vous pouvez passer, à partir de là, on ne passe plus. » Il y avait des ouvertures dans ces murailles, et dans ces ouvertures, eh bien, il y avait marqué un panneau en grec, l'anglais de l'époque, pour prévenir les goyim que ce n'est plus possible pour eux d'avancer. Mais il y avait également devant chacune de ces ouvertures une grosse pierre taillée qui s'appelle Even Mashrit. Et à quoi servait cette pierre taillée? Eh bien, elle servait à se prosterner. C'est interdit de faire ce genre de pierre, nous dit la halakha, à l'exception de Beth Amikdash. Et là-bas, on se prosternait. Et évidemment, se prosterner dans le judaïsme, ce n'est pas comme font nos amis musulmans en remontant leur postérieur vers le ciel, c'est s'allonger complètement, pishut yadaim veraglaim, donc s'allonger complètement. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a fait tout cela et qu'on veut rentrer au Beth Amikdash, par où on rentre? Eh bien, c'est là que ma maquette intervient. Donc, nous sommes arrivés au Beth Amikdash. Nous sommes donc sur le côté. On s'est prosterné tout autour. Il y a 13 portes, 13 endroits où on peut se prosterner. Et finalement, 13 Keminyan Echad. Et au final, eh bien, on va faire le tour pour arriver devant l'entrée du Beth Amikdash, c'est-à-dire ici. Vous êtes donc à cet endroit-là. D'est en ouest, le Beth Amikdash de Jérusalem est inversement situé par rapport aux autres temples de l'époque. Alors que tous les autres temples de l'époque sont situés d'ouest en est, parce que le soleil se lève à l'est et qu'il y a toujours ce paganisme du dieu soleil, eh bien, par réponse à cela, nous, le Beth Amikdash, est d'est en ouest. Le Kodesh HaKodashim sera à l'ouest. Donc, le juif qui veut rentrer, eh bien, il va rentrer par ici. On se prosterne une seule fois, vous savez, comme tu le sens. Comme tu le sens. Il y en a qui faisaient le tour des 13, il y en a qui se prosternaient que à l'intérieur. Comme tu le sens. OK ? Quoi qu'il en soit, une fois qu'on rentre, eh bien, c'est parti. Venez, rentrons au Beth Amikdash. Alors, attention. Lorsqu'on rentre, eh bien, on va arriver et on va pouvoir séparer le Beth Amikdash en trois zones. La première zone, ici. La deuxième zone, ici. Et la troisième zone, là-dedans. En vérité, il y aura une quatrième zone là-dedans aussi, mais on verra. L'atlate. Donc, 1, 2 et 3. Alors, je ne vais pas rentrer dans une résolution extrêmement, extrêmement détaillée. C'est-à-dire, là, on est plus sur une présentation générale du Beth Amikdash. Quand on rentre dans la première zone, donc ici, eh bien, nous arrivons dans cet endroit qui s'appelle Ezrat Nashim. Ezrat Nashim, la galerie des dames. Donc, qui a le droit d'aller ici, dans cette zone, dans cette première zone du Beth Amikdash? Qui a le droit d'aller dans la Ezrat Nashim? Eh oui, évidemment, les femmes. Et les hommes. Comment ça, les hommes? Comment ça, les femmes et les hommes? Mais comment ça? Où est la méchitza? Où est la séparation entre les femmes et les hommes? Grand Dieu, protège-nous! Les amis, dans toute l'époque du Mishkan, dans toute l'époque du premier Beth Amikdash, et dans les 300 premières années du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de méchitza. Zéro méchitza au Beth Amikdash. Pourquoi? Pour une raison très simple. Est-ce que d'après le judaïsme, on a besoin de mettre une méchitza quand on va sur le trottoir? Un trottoir homme, un trottoir femme? La réponse est non. Est-ce que dans le judaïsme, je dois mettre une mechitsa lorsque je fais, moi, je ne sais pas, je vais dans le bus. Un côté du bus pour les hommes, un côté pour les femmes. La réponse est non. Ne me dites pas, eh ben oui, il y a des gens qui le font. Non. Est-ce que lorsque on fait un cours de Torah, on doit mettre une mechitsa? La réponse est non. Tu peux le mettre si tu veux. Fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple. Dans la vie de tous les jours, eh bien, le judaïsme admet que l'homme est dominé par sa tête, par son sechel. Et donc, eh bien, il ne va pas faire des choses inconvenables. Il va être quelqu'un de posé, de rationnel. Et donc, il sait qu'il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir avec les femmes. Et point ! Donc, il n'y a pas besoin de se séparer dans la vie de tous les jours. Cependant, et à Williamsburg, oui, j'ai dit, je viens de dire, et ne venez pas me dire, non, mais il y a des gens qui te disent. C'est bien. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui font des autobus séparés, machin. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises à n'en plus finir. Ça fait passer le judaïsme pour quelque chose de complètement caricatural, de complètement extrémiste, de complètement non rattaché à la vie. Et c'est terriblement dommage. Ça crée aussi des êtres, des hommes particulièrement, extrêmement faibles par rapport à leur pulsion et à leur penchant. Si un homme, lorsqu'il voit une femme marcher dans la rue, une femme qui, et particulièrement à Williamsburg, qui n'est pas habillée ultra provocante, eh bien si un homme qui voit une femme marcher dans la rue et qui n'est pas provocante, qui n'est pas habillé en maillot de bain, bikini, ce que tu veux, eh bien, ça lui fait quelque chose dans sa tête ou ailleurs, il a un problème. Il a mamash un problème. Et je ne suis pas en train de dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, maintenant que c'est sur Internet, alors tout le monde va... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller à la plage, qu'il faut aller à la piscine, qu'il faut aller se balader dans des endroits où tu vois des femmes en maillot de bain toute la journée. Absolument pas. Je parle d'une vie normale, où les gens sont habillés normalement. Eh bien, si le fait de rencontrer une personne de sexe féminin habillée normalement, et quand je dis normalement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la tsniout, mais tu vois une fille qui est habillée en pantalon, qui est habillée en t-shirt, si ça te fait quelque chose, les bonnes colères à la mime, va voir un docteur. Va voir un docteur, je te promets. Dans le Tanakh, tu vois bien que les gens se côtoyaient, hommes et femmes, dans la vie de tous les jours. En mala asot. Dans la Mishnah, tu vois que les mecs, ils se côtoyaient. Il n'y avait pas des villes pour hommes, des villes pour femmes. C'est absurde. Donc, si nos anciens, qui n'étaient pas toujours habillés plus tzniout que nous, les mœurs étaient complètement différentes. Alors oui, c'est vrai que ça ne se baladait pas comme à la Taïlette, à Tel Aviv, machin. Ok. Mais va pas forcément à la télé, à Tel Aviv. Je te parle dans la vie de tous les jours. C'est bien. Les gens doivent être normaux. Et ça, c'est un grand enseignement que j'ai reçu de mes maîtres. Le judaïsme préconise que tu sois normal, d'abord et avant tout. Donc, dans le Beit Hamikdash, il n'y avait pas de méritza. Alors, je répète, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas besoin de méritza. Quand est-ce qu'il y a, oui, besoin de méritza d'après la halakha? Eh bien, c'est lorsque ta tête n'est plus aux commandes de ton corps. Lorsque ton cœur, tes sentiments, sont les gens qui deviennent les joueurs principaux, alors, pour ne pas tomber dans des choses interdites, eh bien, on va mettre une méritza. C'est quand ? Eh bien, d'après la halakha pure et simple, il n'y a que deux moments. La tfila, parce que nous dit la Gemara que la tfila, c'est avoda shebalev, et pendant les enterrements. Où là, évidemment, je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi les sentiments jouent des heures supplémentaires. Donc, dans ces moments-là, tu mets une méritza. Tu vas me dire, au Beit Hamikdash, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin dans un cours de Torah? Parce que dans un cours de Torah, c'est Shilton à Torah, Sechel. Tu ne vas pas, en même temps, au milieu d'une étude de Torah, commencer à faire des mots doux à une jeune fille. Absolument pas. Donc, lorsque le sentiment joue des heures sup, là, on met une séparation. La question, donc, revient, retentit. Tu arrives au Beit Hamikdash, tu es complètement sentimental. Alors pourquoi il n'y aurait pas besoin d'une méritza? Pas shoot. Parce qu'il y a Mechitza là où il y a le Yetzer Hara qui peut te faire tomber. Le Beit Hamikdash, il y a la Shrina. là où il y a la Shrina, la présence divine, eh bien, il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc, lorsqu'il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de raison d'avoir une Mechitsa. En d'autres termes, dans le Mishkan, il y avait la présence divine, pas de séparation. Dans le premier Beth Amikdash, présence divine, pas de séparation. Et dans toute la première partie du deuxième temple, et ce jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik, eh bien, il y avait, même encore après d'ailleurs, il y avait la présence divine. Alors, jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik, c'était la présence divine au top. Après, petit à petit, ça s'est descendu. Dieu a retiré petit à petit sa présence. Et une centaine d'années avant la destruction du Beth Amikdash, eh bien là, on peut dire que dans, au temple, il n'y avait pas vraiment de Shrina. Bah, à la limite, une Shrintonette, pas du tout de compétition. Et donc, à ce moment-là, nous dit la Gemara Mazretsuka, que chez Masu Tikkun Gadol, qu'ils ont mis en place la Mechitsa et qu'au moment de Simchat Bet HaShoeva, c'est-à-dire au moment des grandes rencontres, des grands rassemblements, eh bien, les femmes montaient à l'étage ici. C'est ça qui servait de Mechitsa à l'époque. Mais dans un cas idéal du Beth Amikdash, il n'y a pas de Mechitsa. Dans la Ezrat Nashim sont présentes et les femmes et les hommes, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vient y faire? On vient ressentir la Kdusha. Baezrat Nashim, qu'est-ce qu'on fait? Rien de spécial. Mais on ressent la Kedusha et on vient écouter. On vient écouter les Lévi'im qui sont sur ces escaliers. Et sur ces escaliers, les Lévi'im vont chanter. Chanter les fameux Shir Ama'alot. Alors, je mets la caméra devant. Vous savez, Ma'ala, en hébreu, ça ne veut pas dire... Quand on dit Shir Ama'alot, dans les traductions, il y a marqué quantique des degrés. Ça veut rien dire, quantique des degrés. Comment on dit un ascenseur en hébreu? Ma'alit. Ma'ala, c'est un autre mot pour dire madrega. C'est un escalier. Shir Ama'alot, ce sont les chansons qu'on chante sur les escaliers ici. Maintenant, combien il y a de Shir Ama'alot dans le Tehilim? Il y en a 15. C'est pourquoi il y a ici 15 escaliers. Et chaque jour, les Lévi'im chantaient les 15 Shirei Ama'alot et petit à petit, ils montaient dans les escaliers. C'est-à-dire, dans cette Ezrat Nashim, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a 4 petites chambres, enfin, petites chambres, pas petites, 4 chambres, des Leshachot, des, on va dire, des bureaux. Un bureau de quoi? Eh bien, ça dépend. Il y a le bureau des bois, Lishkata Etzim, c'est là où on entreposait tous les rondins de bois qui servaient à l'entretien du feu du Misbéach. Il y a également Lishkata Shemanim, le bureau de l'huile, là on entretenait l'huile pour allumer la menorah. Il y a également Lishkata Temeim, un Metzoraim, ceux qui sont Metzoraim et qui viennent pour se faire purifier de leur lèpre. Et également Lishkata Nezirim, ceux qui viennent terminer leur Nezirut, se couper les cheveux, et amener un korban au Beth Amikdash, c'est là-bas qu'il se retrouvait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Ezrat Nashim dans cette première partie. Comme on l'a dit, tout le monde, hommes et femmes, peuvent arriver là-bas sans avoir forcément quelque chose à y faire. Il faut, par contre, pour pouvoir pénétrer dans cette zone-là, eh bien, il faut être passé au Mikvé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un niveau de Tahara qui est celui atteint par l'immersion dans les eaux du Mikvé. Une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a passé les escaliers, alors on arrive dans une autre partie du Beth Amikdash. Cette autre partie donc du Beth Amikdash, évidemment, vous avez compris, après les escaliers, eh bien nous avons, attendez, hop là, deux secondes, voilà. Vous pouvez voir ici, je vous le remontre, un peu mieux illustré. Vous pouvez voir ici donc les fameux escaliers. Les fameux escaliers. Et donc, une fois qu'on a passé les escaliers, eh bien on arrive dans un autre, une autre partie du Beth Amikdash. Cette autre partie du Beth Amikdash, c'est quoi? Hop là, je reprends ma maquette. Nous arrivons donc dans la deuxième partie de notre visite. Nous sommes donc rentrés dans ce qu'on appelle ici la Hazara. La Hazara, c'est quoi? On appelle ça également Ezrat Israël. La Hazara, à ce moment-là, le mikveh ne suffit plus. Pour rentrer dans la Hazara, eh bien, il faut avoir été purifié par les cendres de la vache rousse. On en reparlera. Donc, ça ne suffit pas seulement d'avoir été au mikveh pour rentrer dans la Hazara. Qui rentre dans la Hazara? La Hazara, c'est l'endroit où on fait les korbanot. C'est l'endroit où on bosse au Beth Amikdash. Pour rentrer là-bas, évidemment, les Kohanim, les Lévim, bien sûr, mais également tout Israël, homme ou femme, qui voudrait y amener un korban. Une femme qui va amener son korban, eh bien, peut elle aussi rentrer dans Ezrat Israël, à condition d'avoir été aspergée par l'essence de la vache rousse, évidemment. Cet endroit-là, donc on a dit, il y a les Kohanim qui bossent, il y a les Lévim qui bossent également, et on a dit un Juif, un Israël qui va amener son Korban, mais il y a également des Israélim qui sont là uniquement pour être là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, le peuple juif, qu'il soit Kohen, Lévi ou Israël, eh bien, chaque partie du peuple juif a été séparé en 24 équipes. 24 Mishmarot Keuna, 24 Mishmarot Leviya et 24 Mahamadot Israël. Ces équipes-là, eh bien, ont un rôle extrêmement important à jouer, c'est d'être présents lors de leur garde au Beth Amikdash. Tous les Kohanim ne bossent pas au Beth Amikdash tous les jours, il y a des gardes, sauf pendant les fêtes où là, effectivement, tout le monde vient. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des gardes de Kohanim. Voilà, cette famille-là, c'est cette semaine. Pareil pour les Lévi'im. Et pour les Israélim, pareil. Parce qu'il faut qu'à chaque fois qu'il y a un korban qui est fait pour le peuple juif, il faut que voit ce korban-là un représentant du peuple juif. Et donc, ce représentant du peuple juif, c'est qui? Eh bien, c'est tout simplement Mahamadot d'Israël. Donc, dans cet endroit-là, eh bien, il y a tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Eh bien, on va y trouver tous les objets qui vont servir à la confection des korbanot et ensuite au découpage des animaux, et évidemment le Mizbeach HaOla, c'est-à-dire ce grand autel, vous le voyez ici, le grand autel avec cette pente qui permet de monter sur le Mizbeach. Alors, la taille minimum du Mizbeach doit être de 16 amot, mais on peut faire plus, 8 mètres. On peut faire plus. Bonjour, dans les Mahamadot, Israël, peut-il y avoir des femmes? Non, dans les Mahamadot, ce sont les Ave Amishpacha, ce sont les pères de la famille. Maintenant, les femmes, elles peuvent tout à fait partir. C'est d'ailleurs ce qui se faisait. C'est qu'une femme qui doit amener son korban, eh ben, elle va venir au moment où sa famille est en Mahamad pour Israël. Ce n'est pas obligatoire, mais en général, c'est ce qui se faisait. Et donc, eh bien, sur le Keresh, sur la pente qui montait vers le Mizbeach, eh bien, là, on nous raconte une histoire très sympathique dans le traité de Yoma, dans le Talmud. C'est que, alors, quand il s'agit d'une semaine normale, il n'y a pas de débat, chacun sait quel est son rôle, tout va bien. Mais lorsqu'il y avait les journées particulières et Yom Kippour en premier lieu, eh bien, il y avait plein de korbanot à faire. Et pour garder le peuple en haleine, eh bien, on faisait des compétitions de Kohanim pour monter sur le Mizbeach. C'est-à-dire, on faisait des courses. Le Kohen qui arrive en premier en haut, c'est lui qui fait le Korban. La Mishnah nous raconte. Ils ont fait ça jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui se fassent des petits croche-pieds pendant la compète et qu'il y ait des Kohanim qui se blessent en tombant du Keresh. Donc, ils ont dit, bon, on va arrêter ça. Et finalement, ils ont mis en place des tirages au sort. Mais bon, tout ça, j'en reviendrai sur ce qui est quand on étudiera les journées particulières au Beth Amikdash. Bekitsour, dans cette deuxième partie, Ezrat Israël, eh bien, c'est là qu'on va faire donc les korbanot. La troisième partie qu'on a évoquée donc tout à l'heure, c'est lorsqu'on rentre dans le grand bâtiment. Lorsqu'on rentre dans le grand bâtiment, eh bien, on appelle ça à Eichal ou alors à Kodesh. Dans ce Eichal, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Eh bien, on va y trouver deux zones séparées par un parochet, séparées par un grand rideau qui va du sol au plafond. Dans la première partie, donc à Kodesh, là-bas ne rentrent que les Kohanim et les Lévim qui viennent nettoyer. Nettoyer, entretenir également. Mais sinon, pour le service, que les Kohanim ne rentrent. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Eh bien, dans ce Echal Pnima, qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien, on va y trouver d'un côté la... Oui, dites-le. La Menorah. D'un côté, de l'autre, enfin, face à la Menorah, on va y trouver Shulchan Lechem Apanim. Et au milieu, on va y trouver Mizbeach Azav. Donc, d'un côté, la Menorah, le chandelier qu'on doit allumer tous les jours. Alors, où se trouve-t-elle? Au sud. Au sud. Donc, si, là, je vous ai mis exprès la maquette comme ça, ce côté-là, c'est l'ouest. Donc, c'est où le sud? Là. Donc, de ce côté-là, c'est là qu'on va trouver la menorah. De l'autre côté, c'est là qu'on va trouver la table avec les chalotes qui restent chaudes et fraîches de Shabbat en Shabbat. Et au milieu, le Mizbeach Azav, le petit autel où on va mettre l'encens, la Ketoret, tous les jours également. D'accord? Lorsqu'on passe, eh bien, le rideau, c'est arriver dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et là-bas, eh bien, non, ce n'est pas que le Kohen Gadol qui peut y aller à Yom Kippourim. Oui, le Kohen Gadol va y aller à Yom Kippourim, on en reparlera. Mais il y a une autre personne qui a le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est qui? Le roi. Le roi, lorsqu'il veut demander au Urim Vetumim, eh bien, une réponse particulière, il a le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de Urim Vetumim, que le roi y rentrerait également? Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a toujours appris l'inverse. Eh bien, cela, les amis, eh bien, on en parlera la semaine prochaine lorsqu'on va faire l'inventaire de qu'est-ce qu'on fait à quel endroit. Mais ça sera la semaine prochaine. À bientôt.